Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, quand l'Allemagne ne sait pas où elle va, la gauche et la droite revendiquent la formation du gouvernement après les législatives serrées d'hier. On se dirige vers une coalition à trois partis, avec les Verts et les Libéraux, ce qui est inédit en Allemagne. Moins de petites pièces pour le pourboire, mais par carte bancaire, Emmanuel Macron veut l'encourager. Il y voit un coup de pouce aux salariés et employeurs de la restauration. Nous vous expliquerons pourquoi. Comment lutter contre la pénurie de main-d'œuvre ? Jean Castex présente de nouvelles mesures pour la formation professionnelle. Détail avec Laurent Kramer. Et il compte toujours sur la réforme de l'assurance chômage. Les syndicats, eux, restent vent debout. Nous entendrons Laurent Berger. La Chine fait-elle planer une menace de guerre ? Question un peu plus nette après l'affaire des sous-marins australiens. La Chine, guerre ou paix ? C'est l'ouvrage de notre invité à 13h30. Toutes vos questions à l'universitaire Jean-Pierre Cabestan, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore, Éric Zemmour tient un discours d'extrême droite, un responsable des LR le dit, Jean-François Copé. La mort de François Florent, le fondateur du cours Florent qui a vu passer tant de grands comédiens. Portrait de cet homme dont la langue maternelle était l'alsacien avec Stéphane Capron. Pourquoi une telle surmortalité des hérissons en Normandie ? Une étude nationale est lancée, hypothèse l'affaiblissement de leur système immunitaire au contact de l'homme. Vos rendez-vous jusqu'à 14h, le feuilleton, une semaine dans la vie d'une médecin du travail en première ligne pour mesurer les conséquences de la crise sanitaire.
Pour tout le monde, là, après 18 mois de crise, c'est beaucoup posé la question de se dire ben, est-ce que aujourd'hui la vie pro et la vie perso que j'ai est celle que je souhaite finalement encore.
Feuilleton signé Claire Chaudière, le vif de l'histoire au lendemain des élections en Allemagne, regard d'écrivain sur l'Allemagne. Et puis c'est une chanson, Maryse Volinsky avec Frédéric Pommier. Elle choisit Alain Souchon. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le petit bruit de la pièce de pourboire que l'on laisse dans la soucoupe au moment de l'addition au restaurant va-t-il disparaître de notre paysage sonore ? À l'heure du tout carte bancaire, on a bien souvent plus de monnaie en poche, ce qui est un manque pour les salariés de la restauration. Alors Emmanuel Macron, à nouveau en déplacement, à nouveau pour faire un geste vers une catégorie de Français, veut encourager les pourboires par carte bancaire. C'est une information que Simon Le Baron vous donnait en primeur ce matin sur France Inter. Le président de la République à Lyon au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation.
Et donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'on puisse au restaurant payer le pourboire avec la carte bleue, l'arrondi ou plus. Deuxièmement, que ces pourboires soient sans charge pour les employeurs que vous êtes et que ces pourboires soient sans impôt pour les salariés qui les reçoivent. Ce qui va permettre d'ajouter au pouvoir d'achat de ces derniers. C'est une mesure, je le dis très fortement, qui ne coûte rien, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc en effet, on ne va pas payer des charges et des impôts sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas versé. Si c'est versé, c'est du pouvoir d'achat en plus pour des femmes et des hommes qui travaillent et dont le client reconnaît le travail et a envie de rajouter à ce que paye l'employeur. Donc honnêtement, c'est que du positif. Donc on y va, on fonce. Et c'est ce qui va aussi vous permettre d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes pour leur dire « tu peux gagner beaucoup plus que le salaire et le bonus que je te verse ».
Un propos recueilli par Simon Le Baron, entrée en vigueur envisagée au début de l'année prochaine. Cela pourrait être un amendement au budget de la Sécurité sociale qui doit être présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. Et Emmanuel Macron en déambulation ce matin, donc dans les allées de ce salon de l'alimentation à Lyon. Un incident a signalé, un homme a tenté de lui jeter un œuf raté. Et l'individu a tout de suite été interpellé et menotté. Le pourboire par carte donc, plutôt qu'en monnaie sonnante et trébuchante. Qu'en disent les serveurs et patrons de restaurants ? Maureen Suignard, vous êtes allée ce matin dans une brasserie quartier Beaugrenelle, 15e arrondissement de Paris.
Des pourboires par carte bleue non taxés, Mohamed, serveur depuis 15 ans, dit oui.
Franchement, c'est très génial.
Surtout qu'avec le coronavirus, les clients payent de plus en plus par carte bleue.
Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'espèces. Donc, augmenter le sans contact à 50 euros. La plupart de nos clients disent, est-ce que je peux mettre un pourboire de 5-8 euros par carte ? Et nous, on leur dit oui.
Il espère même que cette défiscalisation attirera de nouveaux salariés dans le secteur.
Il y a une vague de démissions en restauration. Aujourd'hui, on a besoin de bras pour lancer un peu notre secteur. Donc si cette histoire de pourboire peut faire avancer les choses, pourquoi pas.
Mais il faudrait encore que les Français adoptent vraiment le réflexe du pourboire, ce qui n'est pas toujours le cas, assure Stan, installé derrière le bar.
Ils donnent beaucoup moins que les étrangers. Les Américains, les Mexicains, ils donnent beaucoup plus que les Français, c'est sûr.
Pour le moment, de nombreux patrons refusent les pourboires par carte, des montants automatiquement déclarés durée. Fabrice propose un plan B aux clients.
On leur dit d'aller retirer, on a juste un distributeur en face.
Ce responsable d'un café-restaurant n'a plus de serveur le matin depuis quelques mois et il ne pense pas le retrouver avec cette mesure.
Il est parti, il a arrêté, il m'a dit c'est un peu galère la restauration, les horaires et tout. Bah, par ailleurs, il s'en fout des pourboires. Puis c'est même pas une question de salaire, c'est une question d'horaire.
Même pessimisme pour le serveur d'un autre établissement, c'est de la poudre aux yeux, lâche-t-il, visiblement très agacé.
Et 5 questions sur ce pourboire par carte et défiscalisé, c'est sur franceinter.fr. Passera-t-on un Noël de plus avec Angela Merkel à la chancellerie à Berlin? C'est loin, Noël, mais les négociations pour former une coalition s'annoncent difficiles en Allemagne au lendemain des législatives. Avantage à la gauche modérée, les sociaux-démocrates, 25,7% des voix, soit 5 points de plus qu'aux précédentes élections. Pour le candidat du SPD, Olaf Scholz, ce matin, c'est clair, son camp a gagné. Les conservateurs, 24%, 9 points de moins qu'au précédent scrutin, ont perdu.
Pour nous, il est très clair que ces résultats nous ont donné l'ordre de former un gouvernement et qu'il doit être porté par les partis qui ont remporté les élections. Le SPD a connu un résultat en hausse significative, mais aussi les Verts et le FDP. On va donc essayer à présent d'emprunter ce chemin ensemble pour former une coalition sociale, écologique et libérale. Il est également très clair que personne ne doit outrepasser le vote des électrices et des électeurs. Et c'est très clair que beaucoup de ces électeurs veulent que nous formions ce prochain gouvernement.
Olaf Scholz veut donc former le prochain gouvernement. La voix off était celle de Ludovic Piétenu. Sauf que, un point seulement sépare le SPD et de la CDU-CSU, le parti d'Angela Merkel. Et Armin Laschet, qui aimerait lui succéder, revendique lui aussi de former le futur gouvernement. On vient de l'entendre, les Verts, 15%, et les Libéraux, 11,5%, sont en embuscade. Personne n'a la majorité à lui seul. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter à Berlin, l'Allemagne, pays stable par excellence depuis 16 ans en Europe, Cyril, découvre les charmes de l'incertitude politique.
Eh oui, impossible de dire ce midi qui sera le prochain chancelier et quelles seront les couleurs de sa coalition. C'est vrai que l'Allemagne n'a plus l'habitude de ce genre de film à suspense, un Kanzler Krimi, un polar de la chancellerie, comme l'écrit la Bild-Zeitung, le tabloïd le plus lu d'Allemagne. Pourtant, la dynamique, elle est nettement en faveur des sociaux-démocrates du SPD qui sont arrivés en tête. Mais la question, c'est de savoir si le candidat CDU Armin Laschet va jeter l'éponge et reconnaître sa défaite, ou bien s'il va s'accrocher et continuer à dire que lui aussi est en mesure de réunir une majorité. On en saura plus cet après-midi lors d'une conférence de presse du Parti conservateur. L'héritier désigné d'Angela Merkel est sous pression. La presse lui reproche son acharnement. On s'active déjà en interne pour lui faire porter la responsabilité de ce très mauvais résultat. La CDU a réalisé hier soir le plus mauvais score de son histoire.
Alors, les directions des différents partis sont en conclave. Rappelons qu'en Allemagne, les électeurs élisent les députés et que ce sont eux ensuite qui constituent une majorité et élisent le chancelier. Ce qui se dessine, Cyril, et qui serait inédit depuis 70 ans en Allemagne, c'est une coalition à 3 partis.
Olaf Scholz, oui, a exprimé clairement sa priorité tout à l'heure, hein, former une coalition avec les Verts et les Libéraux. Ces deux formations arrivées 3e et 4e se retrouvent donc dans le rôle de faiseurs de roi, et il faut que les deux partis acceptent de faire partie de la même alliance pour qu'une majorité existe. Les Verts et les Libéraux ont d'ailleurs déjà entamé des discussions dès ce matin, sans même attendre d'y être conviés par le parti dominant. C'est assez inédit et ça montre bien tout l'enjeu de la période à venir. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre malgré leurs profondes divergences, notamment sur la fiscalité, sur le rôle de la puissance publique? En revanche, il se retrouve sur un constat partagé, le besoin de changement et de modernisation de l'Allemagne. À noter, c'est significatif que ces deux partis, les Grünen et le FDP, arrivent en tête du vote des moins de 35 ans. C'est donc en quelque sorte la jeunesse allemande qui a entre ses mains la clé du futur gouvernement.
Alors, pendant ce temps, Angela Merkel expédie les affaires courantes. Cela dit, les Allemands ont l'habitude des coalitions. La majorité sortante, c'est un attelage droite-gauche. Et les négociations de coalition en Allemagne, c'est du très sérieux, Cyril.
C'est un processus bien établi, hein, qui a ses codes et ses usages, plusieurs phases. D'abord, ce qu'on appelle les discussions exploratoires, qui peuvent durer plusieurs semaines. Les partis discutent entre eux, sont-ils prêts à travailler ensemble, leurs programmes sont-ils compatibles. Et puis, dans un deuxième temps, démarrent les négociations de coalition à proprement parler. Là, il sera question de mesures concrètes, de la politique à mener, de l'attribution des portefeuilles ministériels. Tout est écrit dans un contrat de coalition que les partenaires s'engagent à respecter et qui fera office de feuille de route pour le gouvernement. Une fois ce contrat signé, et seulement à ce moment là, un vote peut intervenir au Bundestag pour introniser celui qui sera le futur chancelier de l'Allemagne.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin, et les Libéraux et les Verts d'Annalena Baerbock sont donc en faiseur de roi. Deux partis, vous nous le disiez Cyril, pour lesquels le vote des jeunes est important. Ces jeunes vont donc peser dans le gouvernement futur de l'Allemagne. Reportage d'un autre des envoyés spéciaux de France Inter, Sébastien Baer.
Elle aurait rêvé de voir Annalena Baerbock devenir chancelière, mais Johanna, étudiante de 19 ans, se satisfait largement du résultat. Un score historiquement élevé pour des législatives, 5 points de plus qu'en 2017.
Je suis super contente que les Verts soient redevenus si forts. C'est une chance de mettre en avant des sujets comme la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que si on continue à ne rien faire comme ces dernières années, ça va devenir encore pire.
Pour compter, les Verts devront participer à la coalition. Reste à savoir avec quel parti. Pour Georg, 22 ans, qui développe des applications, la réponse est évidente.
Chez les jeunes, la CDU n'a vraiment pas bonne réputation parce que le parti ne se préoccupe pas de la jeunesse. Les Verts sont beaucoup plus proches du SPD, avec des thèmes en commun, comme la justice sociale, mais surtout le climat.
Mais les points de désaccord, nombreux, risquent de faire traîner les négociations. Inza redoute de revivre le scénario de 2017, quand il avait fallu près de 6 mois pour former une coalition.
Ça avait duré longtemps et bloquer les dossiers en cours. Le pays était paralysé. Espérons qu'ils parviendront à se mettre d'accord rapidement.
Le FDP pourrait être la troisième force de la coalition aux côtés du SPD et des écologistes, à condition que Verts et Libéraux parviennent à surmonter leurs différences. À Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Voilà ce que l'on peut dire au lendemain des élections législatives en Allemagne. Court avantage aux sociaux-démocrates, incertitude sur le visage de la future coalition. Ce soir sur France Inter, un 18-20 spécial élection allemande en direct de Berlin. Et juste avant 14h, le vif de l'histoire de Jean Lebrun, comment les écrivains allemands définissent leur pays. 9 mois après le Brexit, les pénuries un temps annoncées sont-elles en train de paralyser la vie quotidienne des Britanniques? Les pénuries d'essence sont de plus en plus préoccupantes. 90% des stations à sec dans les grandes villes anglaises, selon l'agence Reuters ce matin, agence britannique. Les achats de panique semblent s'être multipliés pendant le week-end. La Grande-Bretagne post-Brexit qui affronte une pénurie de chauffeurs routiers également. Et le manque de main-d'œuvre touche aussi la France. Alors, quelle réponse? Eh bien, il y a 3 pistes, selon le chef du gouvernement ce matin dans le quotidien Les Échos. Les négociations pour des hausses de salaire dans les branches professionnelles. Petit 2, la formation professionnelle des chômeurs en particulier. Jean Castex détaille un plan. 1,4 milliard de l'argent qui avait déjà été mis de côté, assure-t-il, pour lutter contre la crise. Et qui concerne en particulier Laurent Kramer, les chômeurs de longue durée et les salariés des petites et moyennes entreprises.
Oui, le gouvernement promet du concret, de la réinsertion par des mises en situation, immersion professionnelle d'un mois organisée par Pôle emploi pour les chômeurs de longue durée, des aides de 8000 euros aux entreprises pour signer des contrats de professionnalisation ouverts aux chômeurs de longue durée âgés de plus de 30 ans. Le gouvernement reconnaît au passage les accumulations et les difficultés pour ces personnes les plus éloignées de l'emploi, et souligne qu'un accompagnement psychosocial de 6 mois ou encore spécifique à leurs problèmes de santé sera proposé pour les chômeurs les plus en difficulté. Au total, 800 millions d'euros sont donc mobilisés pour ces chômeurs de longue durée. Pour réduire enfin les tensions de recrutement des entreprises, notamment dans le BTP et l'industrie, le plan annonce là aussi du sur-mesure des formations construites avec et pour les entreprises, promet le gouvernement. Ce plan de 1,5 milliard d'euros consacre enfin 600 millions d'euros aux transitions professionnelles pour préparer aux métiers d'avenir, aux compétences de demain, en un mot, les filières industrielles les plus impactées par la transition écologique, notamment l'automobile avec les batteries électriques.
Merci Laurent Kramer. Et la troisième piste pour améliorer le recrutement selon Jean Castex, outre les hausses de salaire et cette question de la formation professionnelle, eh bien c'est la réforme de l'assurance chômage. Elle incitera ceux qui hésitent entre travail et non-activité à choisir la première option, est convaincu Jean Castex. Cette réforme, au 1er octobre, c'est d'abord un nouveau calcul du salaire journalier de référence qui sert de base au calcul de l'allocation, et cela baissera notamment pour ceux qui enchaînent contrats courts et périodes d'inactivité. Les syndicats sont toujours vent debout, à commencer par le premier d'entre eux, la CFDT de Laurent Berger, Maxime Debs.
Très remonté et déterminé, Laurent Berger et ses équipes à la CFDT travaillent en étroite collaboration avec leurs avocats comme les autres syndicats FO et CGT, chacun de son côté, mais bien dans un mouvement commun.
On poursuit le même objectif, c'est que cette réforme ne s'applique pas.
Et le patron de la CFDT de regretter toujours l'attitude du gouvernement dans ce dossier.
On l'a compris, il y a une forme de détermination qui d'ailleurs est plutôt de l'obstination à mettre en œuvre une réforme injuste.
Injuste, dit Laurent Berger. Et surtout que personne ne vienne lui rétorquer qu'il serait dans une posture idéologique.
Vous savez, c'est ceux qui pensent que la CFDT serait dans une posture idéologique sur le sujet, je crois qu'ils ne connaissent pas la CFDT. Quand on attaque ceux qui sont le plus en difficulté et considérer que baisser les indemnisations, parce que c'est de ça dont il s'agit, baisser l'indemnisation des demandeurs d'emploi serait une question idéologique. Je pense qu'on ne vit pas dans le même monde.
Le ton est offensif, la mise au point cinglante. Nous ne sommes pas idéologiques, répète Laurent Berger, qui insiste. On ne peut pas avoir une vue simplement macroéconomique de la chose. Demain, insiste-t-il, c'est 1 million de personnes, hommes et femmes, je cite, qui vont voir leur indemnisation baisser du fait du nouveau calcul introduit par la réforme.
Et le second volet de cette réforme qui doit entrer en vigueur le 1er décembre, il faudrait cotiser non plus 4 mais 6 mois pour ouvrir des droits au chômage et dégressivité plus rapide des allocations pour les plus hauts revenus. Les tests anti-Covid, dits de confort, ne seront plus remboursés à partir du 15 octobre, confirmation du gouvernement. Le remboursement demeure s'il y a une prescription médicale ou pour les personnes déjà vaccinées. La gratuité demeure pour les mineurs. Sur franceinter.fr, ces départements où le Covid ne circule presque plus. Taux d'incidence inférieur à 25 dans une vingtaine de départements français. Rappelons que le premier seuil d'alerte est à 50. Parmi ces départements, la Creuse, la Manche, le Cantal, l'Orne, les Landes ou la Nièvre notamment. Et après les mois de crise sanitaire, comment compenser le manque à gagner accumulé faute de passagers pendant longtemps à la SNCF et la RATP? La région Île-de-France, qui a un rôle clé, vous le savez, en matière de transport, annonce suspendre ses paiements aux deux sociétés faute d'accord avec l'État. Elle réclame une subvention d'1,3 milliard pour compenser les pertes. Île-de-France présente présidée par la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, dont la candidature sera donc soumise aux seuls adhérents du parti Les Républicains lors d'un congrès le 4 décembre prochain, pas de primaire ouverte. 4 candidats acceptent les règles du jeu définies ce week-end. Outre Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin. Xavier Bertrand, qui ne voulait d'aucune forme de primaire, ne s'est pas encore prononcé. Pas de primaire ouverte donc. Et même les formations centristes, alliées de la droite, au plan national ou local, UDI, Agir et les autres ne sont pas invités, ce qui les met bien en colère, Anne Souhaitemont.
Inlassable partisan d'une primaire de la droite et du centre, le président des centristes, Hervé Morin, regrette le choix des adhérents LR.
On va faire voter 80 000 adhérents. C'est très loin de la construction d'une dynamique collective. Au bout du compte, on va avoir moins d'électeurs pour l'élection d'un candidat qui est capable de gagner que n'en aura celui qui va être désigné par les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts. C'est quand même un comble.
Les centristes pourraient-ils avoir leur propre candidat? Hervé Morin ne va pas jusque-là, à l'inverse du patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui en a toujours été le partisan.
Nous avons fixé notre calendrier, nous allons à l'UDI choisir notre candidat à l'élection présidentielle et bien vont choisir leur.
D'où la main tendue de Valérie Pécresse ce matin chez nos confrères de BFM.
J'ai quand même un petit mot pour nos alliés centristes qui ne pourront pas participer à cette sélection. Et bien évidemment, par respect pour eux et parce que je veux rassembler très largement face à Emmanuel Macron, j'irai aussi présenter ma candidature à l'UDI et aux centristes.
Un clin d'œil de Valérie Pécresse pour tenter de calmer le jeu, éviter que la galaxie centriste regarde ailleurs, vers la maison commune souhaitée par François Bayrou, ou la formation politique bientôt lancée par Édouard Philippe.
Et oui, les centristes fâchés et tiraillés entre droite et Macronie pour agir aujourd'hui proche de la majorité d'Emmanuel Macron et non des LR. Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture, appelle à travailler avec Édouard Philippe, justement, qui s'apprête à lancer son parti la semaine prochaine. Et puis les déclarations d'Éric Zemmour continuent de faire des dégâts à droite comme une pluie acide. Les dernières en date, les LR sont un parti de notables centristes qui a trahi le gaullisme. L'une des figures de la droite, Jean-François Copé, était ce matin l'invité de France Info. Il s'arrête sur le cas Éric Zemmour.
Je pense qu'il utilise les ressorts de l'extrême droite. Quand vous lisez, quand vous écoutez Éric Zemmour, vous retrouvez, si vous avez un peu de connaissance de tout cela, l'extrême droite de Charles Maurras, à travers l'idée de dire « c'était mieux avant », ce qui était une antienne de l'extrême droite du 19e siècle, et deuxièmement, de la théorie du grand remplacement. Alors aujourd'hui, c'est le grand remplacement par les musulmans, nous dit Monsieur Zemmour, mais sous Charles Maurras, c'était les juifs et les italiens. Alors de la même manière, donc il faut qu'on réalise quand même que l'on entend avec Monsieur Zemmour un discours d'extrême droite. Donc on est arrivé à un niveau de délire qui, dans l'indifférence intellectuelle générale, commence à peser lourdement.
Indifférence.
Quand même. Oui, vous avez raison. C'est pas le bon mot. C'est dans l'absence d'indignation. C'est pas tout à fait l'indifférence. C'est l'absence d'indignation. C'est la banalisation.
Jean-François Copé avec Marc Fauvel et Salia Bracca ce matin sur France Info. Pour Éric Ciotti, autre candidat à la présidentielle à droite, Jean-François Copé ne l'est pas. L'occasion, l'accession au second tour de la présidentielle de Zemmour aboutirait à la victoire d'Emmanuel Macron. Il avertit donc les électeurs de droite. L'actualité de la droite, c'est aussi Michel Barnier, invité de France Inter ce matin. Vous pouvez réécouter son interview sur franceinter.fr. Cela n'empêche pas complètement le passage, mais tout de même, depuis vendredi, il y a donc un mur entre le nord-est de Paris et la ville de Pantin. Mur construit après que les toxicomanes accros au crack ont été chassés du jardin d'Éole dans le 19e arrondissement, vers la place Auguste Baron, au bord du périphérique. Et donc ce mur, construit pour empêcher le passage via un tunnel piétonnier. Faustine Calmel a joint ce matin le maire socialiste de Pantin, Bertrand Kern.
Quand vous avez la République qui s'efface et qui est absente, quand vous avez un campement comme ça qui s'installe aux portes de votre quartier, vous n'avez plus confiance dans les pouvoirs publics. Et à ce moment-là, le risque, c'est que face à ces craqueurs qui sont quand même prêts à tout pour se procurer leur dose, je crains pour la sécurité des Pantinois et des riverains immédiates de ce campement, mais aussi pour la situation des craqueurs, parce que quand vous avez l'État qui n'assure pas la concorde publique, eh ben il y a une tentative de la part de certaines personnes de se faire justice eux-mêmes. Et hier, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui disaient que si l'État ne faisait pas respecter l'ordre dans le quartier des Quatre Chemins, ils le feraient eux-mêmes. Donc oui, moi je suis inquiet. Je suis inquiet pour cela, autant pour les craqueurs que pour mes riverains. Ça ne fait, encore une fois, que déplacer le problème. Et derrière, ben, vous rajoutez de la misère à la misère. Donc on est devant une décision qui, je le répète, est honteuse.
SOS Médecins est injoignable depuis ce matin, 8h, et pour 24h, une grève pour demander une revalorisation de la visite à domicile. Les professionnels d'SOS Médecins menacent de ne plus se déplacer pour des raisons économiques. Voilà une école qui a vu passer Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Dominique Blanc, Guillaume Canet, Isabelle Carré, entre autres, le cours Florent, né en 1967. Eh bien, son fondateur et directeur général, François Florent, vient de mourir. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Avec vous, Stéphane, portrait de cet Alsacien à l'histoire hors du commun.
Oui, et puis à la liste que vous avez citée, on peut ajouter Gad Elmaleh, on peut ajouter François Lindon. Ce sont vraiment plusieurs générations de comédiens qui sont passés par le cours Florent. Alors, cette institution créée par François Eisholzer, car effectivement, il était Alsacien. L'Alsacien, c'était d'ailleurs sa langue maternelle. Ce n'est qu'à la Libération qu'il apprend le français, devient un amoureux de la langue et il monte à Paris en 66 et prend le nom de François Florent.
J'ai voulu devenir acteur. C'était assez rare, parce que tous les Alsaciens ont un accent qu'on connaît bien et que j'aime beaucoup. Néanmoins, on m'a laissé partir à Paris pour faire l'acteur. J'ai eu la chance de rentrer au Conservatoire de Paris, dans la classe du fameux René Simon. Je me suis rendu compte que, qu'en l'écoutant, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça que je veux faire. Ne pas être à la lumière, mais de l'autre côté, à l'ombre, et de mettre les autres à la lumière.
En 63, François Florent devient professeur de théâtre au lycée Carnot, dans le 17e, à Paris. Et dans sa classe se trouvent Jacques Weber et Francis Huster, qui eux sont élèves en seconde. Et en 67, donc, il crée le cours Florent, avec des méthodes d'enseignement très différentes du conservatoire. C'est le premier, par exemple, qui ouvre le théâtre aux auteurs étrangers. L'énorme succès apporte néanmoins son lot de critiques. On a souvent parlé de l'usine à comédiens du cours Florent. Et puis, il a eu cette idée géniale avec Francis Huster. C'est la création de la classe libre qui permet à une vingtaine d'élèves par an de se voir offrir deux cours de théâtre. C'est la plus grande fierté de François Florent qui a quitté la direction de l'école en 2011 tout en restant président et tout en continuant même à distance à distiller ses précieux conseils à ses anciens élèves.
Et il avait publié un livre de souvenirs qui s'appelait « Cette obscure clarté ». À propos d'obscurité, voilà un des mystères du moment. En Normandie, la surmortalité chez les hérissons inquiète les défenseurs des animaux. L'association Chêne à Allouville-Belfosse, au nord-ouest de Rouen, mène une étude nationale sur le sujet en partenariat avec l'école vétérinaire et plusieurs laboratoires. Au fil des années, les habitants du coin amènent à l'association de plus en plus d'animaux. 300 en 2018, plus de 500 déjà cette année. Et ils sont en piètre forme, Charlotte Courard, France Bleu Normandie.
Des hérissons souvent déshydratés, amaigris, affaiblis, comme ce mâle pris en charge par la soigneuse, leur prévôt.
Avec un poids catastrophique, on parle de cachexie, avec des muqueuses hyper pâles, donc hyper anémiées, un animal qui avait plus de force du tout, plus de muscles. On a tenté, malgré tous les soins, mais... ça a été un échec.
Le cadavre de ce hérisson va servir à l'étude. 186 d'entre eux ont déjà été autopsiés, leurs organes prélevés et analysés.
Tous ces tissus qui sont prélevés sur les animaux malheureusement morts alimentent notre boc de tissus pour pouvoir après essayer de trouver des pistes.
L'hypothèse envisagée est un affaiblissement général du système immunitaire des hérissons au contact de l'homme.
Il y a des dangers pour le hérisson. Il y a les véhicules, il y a les des engins de tonte, il y a des grillages, il y a des piscines, il y a des poisons, il y a des pesticides. Mais il faut aussi garder à l'esprit que le hérisson a besoin de son équilibre naturel qui doit être le plus sauvage possible.
Il ne faut par exemple jamais nourrir les hérissons. Si la tendance ne s'inverse pas, ils risquent de disparaître de nos jardins.
Plus rapidement qu'on ne le croit.
Voilà pour ces précisions de Charlotte Coutard de France Bleu Normandie. Et un premier point d'étape sur cette étude est prévu dans un mois à la fin octobre. Allez, un nouveau salut au champion du week-end, Julian Alaphilippe, qui a conservé son titre de champion du monde de cyclisme sur route. C'était hier à Louvain, en Belgique, le Français de 29 ans, qui est le premier tricolore à remporter à deux reprises ce titre très prestigieux. Qu'en disent les cyclistes amateurs? Luc Chemla en a rencontré quelques-uns en plein effort sur l'anneau de l'hippodrome de Longchamp à Paris.
Tous n'ont pas pu regarder la course en direct à la télé, mais beaucoup ont évidemment suivi le résultat à distance et ils sont unanimes.
Ah oui, c'est énorme.
C'est incroyable, c'est extraordinaire. Il est en train de devenir vraiment un grand nom de l'histoire du cyclisme, c'est sûr.
Du côté de Frédéric et Maxime, un sentiment revient en particulier.
On est fiers, bien sûr. Ouais, surtout que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Français qui soit champion du monde et en plus deux fois d'affilée, je crois que c'est le premier. Il n'y en a jamais eu avant.
C'est lui qui a fait le taf, mais on est fiers pour lui.
On savoure.
Ouais, clairement. On n'est pas bon dans tous les sports, donc autant profiter. Dans ceux où on est vraiment bon, ouais, ça fait plaisir.
Au-delà de l'incroyable performance sportive et la victoire d'un Français, certains des cyclistes rencontrés sont d'autant plus heureux, que ce soit Julian Alaphilippe en particulier.
Il est reconnu dans le peloton comme vraiment à la fois un leader, mais à la fois quelqu'un d'humain. C'est pas la machine inaccessible comme les Lance Armstrong à un moment, etc.
Moi, je suis content pour lui parce que c'est un bon mec. Pour l'avoir entendu parler hors micro, c'est vraiment un type fondamentalement bien, on dirait. Voilà, donc c'est très bien qu'il soit double champion. Il n'y en a pas des tonnes qui ont fait ça, me semble-t-il. Puis il fait un sport assez dur qui impose une certaine humilité, quoi.
Allez, aujourd'hui, plus que jamais, on peut le dire. C'est qui le meilleur?
C'est Alaphilippe, c'est bien sûr.
Le salut des cyclistes amateurs à Julian Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme. Dans un instant, la météo et puis l'invité du 13-14, l'universitaire Jean-Pierre Cabestan. Question, demain, la Chine, guerre ou paix? J'attends vos questions à vous au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir.
J'ai travaillé au service de presse de l'ONU à New York, puis à l'UNESCO. Mon mari, lui, était peintre et sculpteur. Ensemble, nous avons visité le monde. Aujourd'hui, dans ma résidence retraite Orpea, je continue à m'intéresser à l'actualité, à l'art. J'aime également passer du temps à jouer avec mes amis. Et je continue à voyager dans mes souvenirs.
Orpea, la vie continue avec nous. Retrouvez nos maisons de retraite sur orpea.com.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
France Inter M.
La 30e Fiesta des Suds. Les 7, 8 et 9 octobre à Marseille. Profitez de l'été indien et plongez dans le plus festif et le plus populaire des festivals d'automne. Trois soirées sur l'esplanade du J4 avec Wookid, Célassou, Meute, The Avener, Balthazar, Hervé, Rocio Marquez, Laurent Barden et Tigre de Douce, Campiré, Ghetto Kumbé et bien d'autres. La 30e Fiesta des Suds, les 7, 8 et 9 octobre. Un événement France Inter.
Le temps.
La météo avec Via Santé. La mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Une perturbation traverse le pays, Sébastien.
Oui, cette perturbation s'étend actuellement sur une large bande entre le sud-ouest, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais. Mais elle est surtout active dans sa partie nord, entre la Loire et les frontières belges, où les pluies seront régulières et parfois assez marquées. On a d'ailleurs une belle ligne en ce moment entre Angoulême, Blois, l'ouest parisien et Arras. Au sud de la Loire, les pluies seront plus anecdotiques. La couche nuageuse va même avoir tendance à se morceler un peu. Au fil des heures, cette perturbation va se décaler vers l'est, remplaçant les éclaircies de ce matin et apportant un peu de pluie d'ici ce soir. Sur le nord-ouest, le ciel va va lui s'éclaircir cet après-midi. La Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France pourront voir les apparitions du soleil contrariées par des passages d'averses. Les éclaircies gagneront, elles, jusqu'à la Touraine et au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis autour de la Méditerranée et sur les Alpes, le soleil sera partiellement voilé, mais l'impression restera lumineuse. Les températures amorcent une baisse. Cette baisse va d'ailleurs se généraliser dans les prochains jours. Pour cet après-midi, prévoyez 17 à 24 degrés sur la moitié nord, avec 20 degrés à Paris et Lorient et 23 degrés à Dijon et Strasbourg. Sur le sud, les maximales seront comprises entre 22 degrés à Bordeaux et 29 degrés à Perpignan, avec 25 degrés pour Grenoble et Montauban et 27 degrés à Ajaccio et à Marseille.
La perturbation qui a emporté une petite partie de la voix de Sébastien Léas, mais on vous comprend quand même. Sébastien
Léas, voix automnale.
Météo France, merci beaucoup. Demain, la Chine, la guerre ou la paix, c'est notre sujet jusqu'à 13h45.
Le 13-14. Bruno Duvy.
Jusqu'à quel point la Chine fait-elle planer une menace de guerre dans le Pacifique, voire ailleurs? L'épisode des sous-marins australiens a relancé cette question, l'une des plus sensibles dans l'actualité internationale de ces années 2020. Demain, la Chine, guerre ou paix? C'est le titre du livre d'un très bon connaisseur du pays. Directeur de recherche au CNRS, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour toutes vos questions à notre invité jusqu'à 13h45. Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
Bonjour.
Enseignant à l'Université Baptiste de Hong Kong, vous êtes en duplex depuis Hong Kong. Commençons par là, après la répression du mouvement pro-démocratie, la reprise en main de la Chine à Hong Kong. Quel est le climat à Hong Kong?
Ben, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, vous avez cette répression politique qui fait de Hong Kong maintenant vraiment un régime politique autoritaire. Il n'y a plus beaucoup de pluralisme politique, ni de démocratie, ni même de liberté politique au sens plein du terme à Hong Kong. Et puis d'un autre côté, la vie quotidienne continue pour tous ceux qui ne s'aventurent pas dans la sphère politique, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent dans la finance, dans les services, dans le commerce, etc. Donc, même à l'université, pour ce qui me concerne, je n'ai reçu aucune instruction pour cesser, par exemple, d'enseigner sur des sujets sur lesquels j'enseigne habituellement, c'est-à-dire la politique chinoise, la politique intérieure, la politique étrangère. Mais moi, je ne suis pas un homme politique, hein. Je suis un universitaire, je suis un politiste, comme on dit.
Oui.
Et donc, j'observe les phénomènes politiques, mais je ne participe pas à la vie politique. Et ça, c'est quand même la grande différence avec ceux qui sont aujourd'hui en prison, comme vous le savez, parce qu'ils ont essayé de... à la fois défendre la liberté politique à Hong Kong, mais aussi de militer pour une démocratisation du régime chinois. Et c'est évidemment ça qui inquiète Xi Jinping, c'est que les idées démocratiques de Hong Kong traversent la frontière et aient une influence sur l'avenir du régime politique dominé par le Parti communiste en Chine.
Et vous nous dites en tout cas que vous pouvez enseigner librement, je retiens...
Pour l'instant, en tout cas.
Voilà, cela notamment. Quelle lecture, Jean-Pierre Cabestan, avez-vous faite de l'affaire des sous-marins australiens? L'Australie qui renonce au dernier moment aux sous-marins français et qui constitue une alliance avec États-Unis et Grande-Bretagne, vraiment clairement dans la perspective de se poser face à la Chine. Comment avez-vous lu ça et comment est-ce que ça a été reçu en Chine?
Étant moi-même depuis plus de 20 ans en Asie-Pacifique, la grande affaire évidemment c'est la rivalité sino-américaine.
Oui.
C'est comment résister à la montée en puissance de la Chine, le fait que la Chine aujourd'hui une marine qui est plus importante en nombre de bâtiments de surface que la marine américaine. Et donc les États-Unis ont besoin de tous leurs alliés dans la zone pour pouvoir maintenir une forme d'équilibre qui soit avantageux aux États-Unis par rapport à la Chine. Donc c'est la grande affaire. Après, nous, on a été victimes de deux phénomènes. D'abord, un affaiblissement, je crois, de l'influence française dans la zone. C'est-à-dire que pour les Américains, même pour les Australiens, on ne compte pas beaucoup. Et le deuxième, c'est que les Australiens sont devenus beaucoup plus inquiets de cette montée en puissance et qu'ils ont besoin de sous-marins à propulsion nucléaire pour pouvoir mieux résister et mieux rééquilibrer la montée en puissance chinoise. Et donc, ils se sont laissés convaincre par les Américains que c'était le meilleur moyen pour eux de... défendre leur sécurité.
Et en Chine, on a reçu le message sur le thème « Les États-Unis sont on ne peut plus vigilants vis-à-vis de nous ?»
Oui, évidemment, les Chinois ont reçu de manière tout à fait négative cette nouvelle. Mais enfin, c'est aussi un avertissement à Xi Jinping, qui a des ambitions, comme vous le savez, en mer de Chine du Sud, face à Taïwan ou même face au Japon. Et donc, ça, si vous voulez... ça crée un rapport de force avec lequel les responsables chinois vont devoir compter maintenant.
Alors la Chine, guerre ou paix, vous en avez dit un mot déjà à propos de la marine. Le premier constat, c'est que l'armée populaire de Chine se renforce, et pas qu'un peu.
Non, ben oui, elle se renforce surtout sa composante maritime et puis aérienne, aussi spatiale. Donc sur tous les terrains où les États-Unis étaient leaders, la Chine essaye de concurrencer Washington et d'avancer ses pions, y compris dans le domaine de la cybersécurité, même s'ils accusent encore un retard important dans ce domaine par rapport aux États-Unis. Mais on voit bien que c'est une rivalité qui est à bien des égards bipolaire et qui rappelle la rivalité américano-soviétique de la guerre froide précédente.
Et l'objectif affiché est d'avoir une armée plus puissante que l'armée américaine et à relativement court terme ?
Alors, en tout cas, dans le domaine conventionnel, l'idée, c'est de pouvoir, je pense, accumuler un nombre suffisant de bateaux, d'avions et de moyens de projection pour pouvoir créer un rapport de force qui lui soit favorable, en particulier dans le détroit de Taïwan. Oui. Parce que c'est quand même le principal objectif de Pékin aujourd'hui et de Xi Jinping. Le risque, évidemment, c'est que vous avez affaire ici à deux puissances nucléaires et qu'il y a un risque de nucléarisation du conflit qu'il faut garder à l'esprit. Et qui, paradoxalement, à mon sens, est un facteur de paix. Plutôt qu'un facteur de montée aux extrêmes.
Est-ce qu'il y a eu un tournant avec Xi Jinping dans le nationalisme, voire un caractère belliqueux du régime ? Est-ce que l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping a changé les choses ?
Pas vraiment, pas véritablement, mais elle a renforcé, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping a renforcé le nationalisme qui est devenu, comme je le dis dans mon livre, à bien des égards incandescent, en tout cas dans certains segments de la société chinoise. Le paradoxe, là aussi, c'est que la Chine n'a pas été en guerre depuis plus de 40 ans, que les gens ne savent plus ce que c'est la guerre, et que si on demande aux Chinois est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour Taïwan, je ne suis pas sûr que la réponse soit toujours positive. Surtout dans une Chine qui vieillit, qui a pratiqué la politique de l'enfant unique pendant des années. Donc c'est autant d'incertitudes qui peut-être vont continuer de persuader Xi Jinping de jouer dans ce qu'on appelle les zones grises, c'est-à-dire avancer son avantage en menaçant Taïwan, mais sans pour autant passer le seuil de l'affrontement armé.
Et on n'a pas une Chine, au niveau de la population, nationaliste, comme pouvaient être les pays européens à la fin du 19e siècle ou au début du 20e ?
Si, et c'est ça le problème. C'est que vous avez, en tout cas, de larges segments de la société chinoise qui sont très nationalistes. Ça rappelle plutôt le Japon des années 30, l'Allemagne des années 30 également. Et c'est ça qui inquiète, c'est que vous avez peu d'esprit critique en Chine, peu de culture démocratique qui de nature à créer une distance entre le pouvoir et la société, et surtout un contre-pouvoir qui pourrait conduire Xi Jinping et le responsable du Parti communiste à réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une opération armée. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est que tout le monde semble très très uni, très soudé autour du pouvoir du Parti communiste, et contrairement à ce qu'on pouvait espérer après Tiananmen, il n'y a pas eu de force favorable à la démocratie capable de créer, de limiter le pouvoir du Parti communiste et de faire évoluer le régime vers un autre type de système politique.
Question au standard pour vous, Jean-Pierre Cabestan. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Vendée.
Voilà, tout à fait. Bonjour monsieur. Donc ma question est la suivante. Est-ce que l'interdépendance économique entre la Chine et les États-Unis, avec d'un côté les Chinois qui achètent beaucoup de bons du Trésor qui permet de financer l'énorme dette américaine, et de l'autre côté les achats massifs des consommateurs américains des produits fabriqués en Chine, ne rend pas un peu finalement illusoire et un peu hypothétique l'idée d'une troisième guerre mondiale, ce qui n'empêche pas des affrontements sur les conflits, sur des conflits mineur entre guillemets. Et dans le prolongement de cela, est-ce qu'il n'y a pas une présentation journalistique un petit peu anxiogène sur le thème de la Troisième Guerre mondiale ?
Jean-Pierre Cabestan.
D'accord, merci. Non, je pense que votre question est importante. La question de la dépendance économique, évidemment, fait monter les enchères. Alors la réponse qu'on connaît, qui vous a peut-être déjà été faite, c'est qu'en 1914, les pays européens étaient extrêmement interdépendants sur le plan économique, ce qui n'a pas empêché la déflagration qu'on connaît. Maintenant, c'est plutôt le facteur nucléaire, à mon avis, qui contraint les puissances engagées sur le théâtre Indo-Pacifique à réfléchir à deux fois avant de passer vraiment à l'affrontement armé. Maintenant, ma thèse, c'est qu'on va plutôt vers des crises militaires qu'il va falloir gérer, des incidents armés éventuellement, mais qu'on ne va pas vers un conflit généralisé entre les États-Unis et la Chine pour les raisons que je viens d'indiquer. Donc le doux commerce, comme on dit, c'est peut-être un facteur de paix, mais ce n'est pas non plus, si vous voulez, un vaccin efficace à tous les cas, à tous les coups, contre les risques de guerre.
Et de mon côté, je n'ai pas parlé de Troisième Guerre mondiale, je m'en suis bien gardé, d'autant qu'effectivement, vous parlez avant tout de crise régionale. Alors parlons de Taïwan. Dépêche, pas plus tard que ce matin, une frégate britannique qui s'engage dans le détroit de Taïwan, la Chine qui condamne fermement. S'il y a risque de conflit, ça peut être aussi des incidents de cette nature-là qui tournent mal.
Oui, bien sûr. Alors, je rappelle quand même que le détroit de Taïwan, qui fait 150 km de large, est une voie d'eau internationale, hein. C'est pas la Chine, ce sont des eaux internationales. Maintenant, la Chine essaie de transformer cette zone, évidemment, en mer intérieure, afin de démontrer son intérêt dans l'unification avec Taïwan. Donc c'est à chaque fois un test, hein, pour les puissances extérieures de traverser le détroit de Taïwan, mais enfin je pense que c'est aussi un rappel fait par la Grande-Bretagne ou d'autres pays à la Chine que la liberté de navigation est une des normes internationales auxquelles tout le monde est attaché, d'ailleurs y compris la Chine d'une certaine manière, et que c'est l'intérêt aussi de Pékin de la respecter.
Et jusqu'à quel point les États-Unis seraient prêts à s'engager pour défendre Taïwan, pour défendre des îles en mer méridionale, pour défendre des îles au large du Japon? Jusqu'à quel point les États-Unis seraient prêts à s'engager, Jean-Pierre Cabestan?
C'est la vraie, véritable question. Alors, pour la mer de Chine du Sud, il y a eu assez peu de cas de prise de contrôle. Il y en a eu un en 2012, mais enfin, qui est assez mineur, de prise de contrôle d'un îlot qui avait été négligé par les Philippines, hein, par rapport à Pékin. Mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, la Chine a respecté une forme de statu quo en militarisant ses propres îlots, hein, mais en ne cherchant pas à prendre le contrôle des îlots qui sont occupés par le Vietnam, les Philippines, oui, la Malaisie. Mais concernant Taïwan, évidemment, l'enjeu est beaucoup plus grand, parce que c'est un objectif prioritaire de Xi Jinping, et que pour les États-Unis, c'est aussi toute leur crédibilité, hein, en Asie-Pacifique, dans l'Indo-Pacifique, est en jeu. Mmh. C'est-à-dire que si le verrou taïwanais tombe, c'est la sécurité du Japon qui est en danger, et puis c'est le statut des États-Unis comme puissance du Pacifique, protectrice de ses alliés dans la zone, notamment le Japon, mais aussi la Corée du Sud, les Philippines, la Thaïlande, qui est en jeu. Donc c'est pour ça que, à mon avis, ça me semble difficile aux États-Unis de lâcher prise, et donc d'abandonner Taïwan comme ils ont abandonné l'Afghanistan. Autant l'Afghanistan était une zone sur le plan géostratégique pas très importante pour les États-Unis, autant le Taïwan est une fois encore à la fois un moyen de rééquilibrer la puissance chinoise. Et donc la guerre froide actuelle qui se développe entre la Chine et les États-Unis est de nature à favoriser la sécurité de Taïwan, mais c'est aussi un symbole de démocratie. Et donc, pour Biden ou quel que soit le président américain, c'est très difficile d'abandonner une démocratie qui fonctionne et qui a réussi à démontrer qu'il n'y avait pas de contradiction entre la culture confucéenne et les valeurs démocratiques.
Question de Laurent au standard pour vous, Jean-Pierre Cabestan. Il nous reste peu de temps, je vais la prendre dans ma voix. Quel rôle pour l'ONU ?
Alors l'ONU est du côté de la Chine, je dirais malheureusement pour Taïwan, parce que c'est le principe de la Chine unique. La Chine a remplacé Taïwan à l'ONU en 1971, hein, donc ça fait 50 ans maintenant, 50 ans, oui. Et donc le rôle de l'ONU dans l'affaire taïwanaise est assez limité. Oui. Maintenant l'ONU peut jouer un rôle plutôt pour essayer de trouver des normes communes, que ce soit sur le droit de la mer ou sur la non-prolifération et les autres questions qui intéressent à la fois la Chine et les États-Unis et les autres puissances de la région.
Merci Jean-Pierre Cabestan. Demain, la Chine, guerre ou paix, c'est publié chez Gallimard. Vous étiez en duplex de Hong Kong, 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
L'Allemagne en pleine incertitude après les législatives. Sortir des images toutes faites, les écrivains des siècles passés en Allemagne, nous y êtes bien.
Recourir aux textes anciens.
Ce sera le vif tout à l'heure. Le feuilleton, une semaine dans la vie d'une médecin du travail en première ligne pour mesurer comment la crise a touché les salariés depuis un an et demi. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Jeudi à Limoges, nous avons visité le bureau du dessinateur Wolinski, installé au salon du dessin de presse. Wolinski assassiné avec ses camarades de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Une exposition lui est consacrée à l'école des Beaux-Arts à Paris où il avait étudié. Et à cette occasion, son épouse, la journaliste et romancière Maryse Wolinski est à votre micro Frédéric.
Maryse Wolinski, c'est elle qui, avec sa belle-fille Natacha Wolinski et Jean Deloisy, le directeur de l'institution, a sélectionné les dessins exposés, 41 dessins des années 60 aux années 2010, qui rejoindront ensuite la collection du musée de la prestigieuse école.
Ça correspond à, je dirais, ma politique de don pour l'avenir de l'œuvre, en fait. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'une œuvre soit vue, publiée, exposée, et non pas vendue à des collectionneurs qui les mettent dans leur cave et qui ne les regardent pas.
L'idée étant de montrer un maximum des facettes de son travail.
Bien sûr, parce que son trait a beaucoup évolué. On voit très bien d'ailleurs la première partie où c'était vraiment des grands dessins, très pleins, avec beaucoup de personnages. Et puis ensuite, ça s'est épuré, un peu jeté comme ça. Jeté, mais toujours très travaillé.
Passez notre amour à la machine. Faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début. Tant d'azur perdu.
Et c'est donc une chanson d'Alain Souchon qu'a choisi Maryse Wolinski.
L'amour à la machine, l'un des titres de son album C'est déjà ça, 1993. Maryse Wolinski l'a beaucoup, beaucoup écouté cet album et elle valide totalement ce qui se dit dans ce texte-là.
D'abord, j'aime beaucoup Souchon, première chose. J'aime beaucoup l'écriture de Souchon. J'aime sa nonchalance, la profondeur de ses chansons, une espèce de hauteur de vue. Et puis, ça correspond à quelque chose que je pense vraiment. C'est que chaque jour, l'amour est différent. L'amour n'a jamais la même couleur. Ça dépend de son partenaire ou de sa partenaire. Ça dépend de soi-même. Ça dépend des circonstances, de la vie. Moi, j'ai vécu un amour vraiment très long, 50 ans, quoi, puisqu'on s'est connus en 68. On a été particulièrement heureux. Mais chaque jour, petite différence. Parce qu'on a envie plus de rose ou plus de bleu.
Matisse, l'amour, c'est bleu, difficile. Les caresses, rouges, fragiles. Le soleil de la vie les tabasse. Et alors, elle passe. Allez.
Quand la personne qu'on aime n'est plus là,
y a-t-il une couleur à l'absence? Je pose la question. En fait, il n'y a plus de couleur. C'est triste, d'ailleurs. C'est particulièrement triste. Mais en même temps, cette absence tient de la place. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Mais je suis toujours incapable de parler du 7 janvier.
Passez notre amour à la machine. Faites bouillir.
Il y a aussi de l'humour dans cette chanson. Il y a de l'amour et il y a de l'humour. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce que j'ai été environnée d'humour. Je suis moins aujourd'hui, naturellement. Quoique, aux Beaux-Arts, on va retrouver l'humour de Georges.
La blanche qu'on croyait.
La L'amour à la machine, Alain Souchon, c'était donc le choix de Maryse Wolinski, Frédéric.
Et l'exposition des dessins de Georges Wolinski, c'est jusqu'à dimanche à l'École des Beaux-Arts de Paris.
À demain.
À demain.
Notre feuilleton jusqu'à vendredi, au micro de Claire Chaudière, une semaine dans la vie d'une médecin du travail. Elle s'appelle Olfa Jouini. Elle est installée dans ce qu'on appelle un centre de médecine inter-entreprise, 8e arrondissement de Paris, au contact de travailleurs de la restauration, de l'informatique, des musées, du monde du luxe. Et elle est en première ligne pour mesurer les conséquences de l'année et demie qui vient de s'écouler dans le monde du travail. Protocole sanitaire, télétravail, arrêt maladie. La journée d'Olfa Jouini commence par un geste symbolique.
Alors, la première chose que je fais lorsque j'arrive le matin, c'est allumer mon ordinateur et je mets ma blouse. Je mets ma blouse pour endosser mon rôle de médecin du travail. C'est important de mettre mon costume de scène un petit peu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, je vous vois. Vous êtes en reprise de travail. Donc, il va falloir reprendre vos marques, reprendre ces marques petit à petit. Il faut que vous listiez et que vous sachiez quelles sont les difficultés qui pourraient vous faire briller. Maintenant, vous le savez. Quelle est la charge de travail qui fait que ça ne va pas aller? Ou quelle est la forme du travail qui fait que ça ne va pas aller? D'accord? Là, maintenant, vous êtes plus éclairé, j'allais dire, qu'il y a 6 mois. Donc ça, vous le voyez arriver comme un feu rouge. Vous voyez, il y a le feu orange qui est d'abord. On a vert, orange. Quand vous êtes dans l'orange, là, vous dites, non, là, je sais que c'est ce que ça va donner derrière. Donc là-dessus, hop, je freine.
L'intérimaire, là, est conservé jusqu'au 21 septembre.
D'accord, super. Voilà. Donc, elle va vous aider sur ce qui est resté pendant que vous étiez en arrêt de travail qui n'a pas été fait.
Et puis même actuellement, parce que mon rythme n'est pas le rythme de l'entreprise. Hein.
Bien sûr. Et peut-être faire un petit point. Ce n'est pas les émotions qui comptent, c'est vraiment le factuel en disant, ben voilà, je dois faire telle, telle et telle tâche. Ça me prend tant, tant et tant de temps. Ou alors, ça ne rentre pas et de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire alors? D'accord?
Oui.
On se voit dans 2 mois, madame, ok? Bon courage, bonne reprise, madame. Alors, il faut savoir que la visite de reprise, c'est l'un des premiers contacts avec le travail, en fait, le domaine du travail, finalement. Donc, ils sont émus. Ça les remet aussi émotionnellement dans le moment où ils se sont mis en arrêt de travail. Là, cette dame, par exemple, ça a été compliqué. Elle a tenu pendant toute la crise sanitaire là, le télétravail, l'absence d'une collègue. Et puis, elle a tenu. Et puis là, elle a lâché là maintenant. Alors, vous allez me dire, elle a lâché en mars 2021, c'est un an après. Mais oui, on a aussi des effets retardés. Et on peut les voir maintenant. Hop, allez. Installez-vous, je vous en prie. Allez-y. Arrêt maladie. Hop, et vous, vous étiez en arrêt. Jusqu'à quand?
J'ai repris lundi dernier.
Ok. Donc, on doit bénéficier. Monsieur, au revoir. Vous suivez les conseils, hein, d'accord?
Au revoir.
Au revoir, merci.
Donc, c'est un cadre que je suis là depuis quelques mois, qui m'a été adressé par sa direction parce qu'il ne le sentait pas bien. Et ça n'était pas du tout au niveau du travail. Ils travaillent très bien, ils en sont complètement satisfaits sur le plan professionnel. Mais l'employeur sentait que le salarié semblait perdre pied. Il a eu 2 choses. Il a eu le décès de son père, il y a 2 ans, avant le Covid. Et il y a eu le Covid, effectivement, et le confinement. Les managers ne vont pas forcément très bien. Ils ont l'opérationnel qu'ils ont toujours eu jusqu'à présent, ajouté avec les difficultés que le Covid a apportées. Des absences dans les équipes parce que les gens sont malades, des obligations de télétravail pour des histoires de cas contact. Bah, ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont un burn-out. On leur demande de manager, mais avec telle condition. Donc, ils gèrent la crise et ils craquent après, en général, les managers, quand ils craquent. Hein. Tout le monde, là, après 18 mois de crise, s'est beaucoup posé la question de où vais-je, qui suis-je ? Et de se dire, ben, est-ce que aujourd'hui, la vie pro et la vie perso que j'ai est celle que je souhaite encore ?
Une semaine dans la vie d'une médecin, du travail, feuilleton de Claire Chaudière, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, alors que l'Allemagne découvre les charmes de l'incertitude politique, comment les écrivains et présidents allemands ont décrit leur pays au fil des textes. Avant de plonger dans les textes allemands, l'éternel complexe français vis-à-vis de nos voisins, avant le scrutin, trois responsables de la droite en France avaient publié une tribune, quotidien L'Opinion, sur le thème « Face au déclin, il y a 20 ans, nos voisins allemands ont surtrouvé la prospérité, ferons-nous en France le choix du dépérissement ou de la guérison ?»
Vous avez noté, ils se sont mis à trois. Abad, Retailleau, Bellamy pour reproduire un poncif qui a cours depuis 1870. La victoire de l'Allemagne avait alors provoqué un choc que les historiens de la littérature ont identifié comme la crise allemande de la pensée française. Bah oui, parce que jusque-là, les Français étaient assez tranquilles. Outre-Rhin, la nation, l'état, le territoire ne coïncidaient pas. Et voilà qu'un nouveau Reich naissait qui prenait la forme d'un empire. Et après 70, Ernest Renan, le philosophe, présentait l'allemand nouveau comme dédaigneux des jouissances faciles dans lesquelles nous, plèbes latines, nous nous complaisions, attirés que nous étions par le socialisme. Depuis longtemps, l'Allemagne est le catalyseur des droites françaises. Catalyseur qui produit une réaction.
Alors, une anthologie de textes plongeant au plus profond de la littérature allemande et concoctée par Sophie Lorrain présente à l'inverse l'Allemagne comme un analyseur de la France.
Analyseur, ça permet de discerner les différentes parties d'un tout et de mesurer comment elles s'organisent. Eh bien, les Allemands du 18e et du début du 19e siècle étaient sidérés de voir comment la France, à partir d'éléments très hétérogènes, avait réussi à construire à chaud et à sable un État robuste, alors que eux restaient dans la dissémination. 1797, Schiller demandait « Quelle est la patrie d'un Allemand ? Est-ce la Prusse ou bien la Souabe ? Est-elle sur les bords du Rhin où mûrit le vin ? Ou sur les bords de la Baltique où vole la mouette ?» Il répondait « Oh non, 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 c'est une patrie bien plus grande. » L'Allemagne, on le sait, avait en principe bénéficié de la translation impérie de la translation de Rome, mais le Saint-Empire romain, héritier de Rome, était devenu germanique et il s'était érodé jusqu'à devenir insignifiant. 10 ans après les questions de Schiller, Napoléon confisquait la réponse. Oui. 1806, Vienne, il faisait abolir le Saint-Empire. Et à Iéna et à Tilsit, il battait et humiliait la Prusse en même temps qu'il déployait une confédération du Rhin qui recomposait les frontières en sa faveur.
Il est des patries difficiles.
Une patrie difficile, c'est un mot du président fédéral des années 70, Gustav Heinemann. Sophie Lorrain, dans sa sélection de textes, marque une dilection pour les anciens présidents fédéraux. Que faire après que Napoléon a neutralisé Vienne et Berlin ? Le catéchisme des Allemands, Kleist, répond, 1809. Le père demande au fils, « Dis-moi mon fils, qui es-tu ? » « Je suis un Allemand, le père. » Mais Napoléon, dans un acte de violence, a réduit l'Allemagne en miettes, elle existerait encore. « Oui, oui, » répond le fils, sa génération, puis la génération de son fils en seront persuadés et ainsi s'accomplira le deuxième Reich proclamé à Versailles 1870.
Puis le troisième Reich, monstrueux dans sa version de 1933, mais l'Allemagne par les textes suit aussi un autre filon, celui, pour faire simple, dites-vous, de Goethe.
Goethe, mais si nous n'avions que Vienne et Berlin, que serions-nous ? Pour notre salut, nous avons aussi des dizaines d'universités, de musées, de théâtres. Il n'y a pas que les Français qui se méfient de la Prusse qui serait une armée dotée d'un État et non un État possédant une armée. La tradition anti-prussienne qu'incarne Goethe est forte en Allemagne, l'Allemagne polycentrique plutôt que l'Allemagne prusso-centrée. Et ben, c'est cette traduction et cette tradition qui a été très clairement reprise depuis 1945.
Alors l'auteur le plus longuement cité par Sophie Lorrain, c'est peut-être un autre président fédéral, Richard von Weizsäcker.
Qui a dit trois choses essentielles. Un, le peuple allemand ne peut pas être considéré comme coupable tout entier de ce qui est advenu. Très majoritairement chrétien, il sait ce qu'est la responsabilité individuelle. Deux, et en cela, Weizsäcker va répéter son prédécesseur Heinemann, la position géographique de l'Allemagne au centre d'une Europe qui ne trouve jamais une configuration stable, ça ne facilite pas les choses. C'est pour cela, trois, que l'histoire de l'Allemagne n'a jamais appartenu aux seuls Allemands. Lisons donc ces sources allemandes, revenons-y.
Sophie Lorrain, une histoire de l'Allemagne au fil des textes de Luther à Helmut Kohl, c'est publié chez Perrin. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, cher Mathieu, quel est le programme aujourd'hui ?
L'invité de la Terre au carré dans un instant, l'anthropologue Philippe Descola.
À tout de suite.